13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver, comme chaque jour pendant une heure, en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous, ma chère?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu nous intéresse. Alors ça commence par une fatigue intense, des crises de larmes, de l'irritabilité que l'on n'arrive plus à gérer, et ça peut se terminer en véritable burn-out. Être parent, ça n'est pas toujours tout rose, mais quand ça se transforme en dépression, ça a désormais un nom, l'épuisement maternel. S'il peut concerner tous les parents, ce sont surtout les femmes qui en sont victimes, car elles doivent assurer à tous les niveaux, au travail, à la maison, dans leur couple, et il arrive qu'elles craquent. Le burn-out maternel est encore peu reconnu et surtout tabou. Pourquoi suis-je fatiguée alors que je devrais être heureuse d'être maman? Mes parents m'épuisent, cela veut-il dire que... Mes enfants m'épuisent, pardon, cela veut-il dire que je suis une mauvaise mère? Elles sont nombreuses aujourd'hui à parler de cet état très dur à vivre. Comment reconnaître l'épuisement maternel? Comment accompagner quelqu'un qui en est victime? Le burn-out maternel, comment en sortir? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous le savez, comme chaque jour, vous composez le 3921 pour venir témoigner sur l'antenne d'Europe 1, le standard d'Europe 1, donc 3921. Et puis vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Virginie au 3921. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 31 ans et j'appelle depuis le Morbihan en Bretagne.
D'accord. Alors, vous êtes maman de deux enfants, l'un oui. qui a 6 ans et l'autre qui va avoir 3 ans. Vous dites que vous avez ressenti une grande fatigue au départ. Alors, est-ce que c'est au départ du premier ou à partir du second?
Non, en fait, ça a été après la naissance du second. Donc, ouais. Notre second enfant a eu des petits soucis de santé, enfin... Comme tous les bébés, il régurgitait, mais il régurgitait vraiment beaucoup. Mais il n'était pas classé RGO, donc on n'avait pas de traitement, entre guillemets, vraiment à lui donner. Mmh. Et en fait, si vous voulez, quand on soignait les régurgitations avec un lait spécialisé, dans l'autre sens, ça le constipait. Et ouais. ensuite, quand on prenait un lait pour les constipations, eh bien, il régurgitait.
Mmh. Il avait du mal à se nourrir, en fait.
Exactement. Mmh. Il ne prenait pas beaucoup de poids et puis c'était épuisant de lui donner un biberon et de voir le biberon ressortir 5 ouais, minutes plus ouais. tard. Et puis une demi-heure après, il pleurait parce qu'il avait faim et ainsi de suite. Quoi. Mmh.
Alors dans cette période, puisque parallèlement, votre mari a ouvert son entreprise, hein, ce qui lui a pris beaucoup de temps, vous vous êtes retrouvée toute seule à tout gérer? Vous avez eu ce sentiment?
Je me suis retrouvée toute seule. Ça a été un choix aussi de dire à mon mari... ton entreprise, c'est ton bébé, vas-y, moi je gère la maison de mon côté, fonce quoi. Mmh. Son entreprise a très bien décollé dès le début, c'était aussi un choix de ma part de lui dire vas-y, moi je vais assurer. Mmh. Après, derrière, on a eu des accidents de la vie, comme on dit, on a enchaîné ouais. Deux années difficiles, ouais. qui, moi, m'a propulsé au fond du trou. Quoi.
Ouais. Vous faites référence aux deux décès hein, que vous avez eu dans votre entourage, oui. et vous ne vous êtes pas rendu compte hein, tout de suite que ça avait eu sur vous et sur votre vie, votre vie de famille a un impact particulier, ces deux décès?
Non, au début, j'ai un petit peu, j'ai encaissé pour ma famille, j'ai un petit peu fait le paravent, surtout pour mes enfants, parce que les deux décès ont beaucoup impacté mon mari, oui. Qui a géré comme il a pu de son côté, sachant qu'il avait une jeune entreprise aussi à gérer, que c'est pas facile tous les jours, on le sait. Mm-hmm. Donc moi, j'ai pris sur moi pour pas que mes enfants ressentent forcément notre peine, tout ça. Et en fait, quand tout ça s'est stabilisé, qu'on a retrouvé une vie à peu près normale, c'est là que moi, je me suis effondrée et que je me suis rendu compte que petit à petit, j'étais descendue... Que j'étais arrivée au fond du trou et que j'avais pas vu venir quoi.
Alors se retrouver au fond du trou, ça veut dire que vous étiez dans quel état? Que ressentiez-vous exactement?
Tout et rien en fait. Pour moi, être au fond du trou, en gros, je n'arrivais pas à me lever le matin. C'était ouais. très compliqué. Je me réfugiais dans des tâches, automatiques, faire la lessive, ouais. ranger la maison, des choses comme ça. Tout ce qui me demandait une implication émotionnelle, tout ce qui était échange social, c'était devenu très compliqué parce que ça me demandait énormément d'efforts. Mmh. Et du coup, la vie de maman devenait très compliquée quoi, parce que j'arrivais plus à. Je gérais mes enfants, tout ce qui était de l'ordre dépendre de l'automatisme, leur faire à manger, leur donner le bain, tout ça, c'était pas un problème. Ouais. Mais après, tout ce qui était partage avec eux devenait très difficile.
Mais, qu'entendez-vous par là ? C'est que tout ce qui est de l'ordre émotionnel vous paraissait insurmontable, c'est ça ? C'est que exactement. Dès que ça vous impliquait émotionnellement, c'était tout de suite la fatigue.
Je me sentais comme une coupe pleine d'émotions et ouais. J'étais incapable de recueillir leurs émotions à eux. Quand ils se faisaient mal et qu'ils pleuraient, ça m'insupportait parce que du coup, j'arrivais pas à, comment dire, à accueillir leur colère ou leur mal-être. Ouais. Moi, c'était à l'extérieur, j'étais du coup impassible parce que j'étais épuisée et à l'intérieur de moi, j'avais envie de hurler, de les prendre, de les consoler, mais j'étais incapable de le faire physiquement, quoi. Mmh. Il y avait aucune énergie physique qui s'accompagnait à ça, quoi.
On va continuer à parler de cet état de burn-out qui, finalement, quand je vous écoute, Virginie, ressemble beaucoup à celui dont on entend parler lorsqu'on évoque le burn-out professionnel. Vous restez en ligne avec nous et dans quelques instants, on va parler de la culpabilité, justement, que les mères ont lorsqu'elles se retrouvent dans cet état émotionnel que vous décrivez. Restez en ligne avec nous.
Europe 1. Des mères qui craquent, fatiguées, victimes d'un épuisement maternelle, c'est ce que vous avez vécu. Vous nous racontez également, vous écoutez au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Merci de choisir Europe 1. Vous composez le 39-21 pour venir échanger chaque après-midi avec Olivier Delacroix. Nous parlons du burn-out maternel. On revient et voici U2 avec You're the Best Thing About Me. La bande à Bono, U2 sur Europe 1 avec You're the Best Thing About Me. Vous retrouvez Olivier Delacroix et nous parlons du burn-out maternel. Elles cherchent à être des mères idéales et ils laissent toute leur force. Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Virginie qui, dans la première partie de cette émission, nous expliquait s'être retrouvée complètement par cet état émotionnel, avoir ce sentiment d'être totalement vide et extrêmement fatiguée. Virginie, vers qui vous êtes-vous retournée à ce moment-là ? Est-ce que le réflexe premier, c'est d'en parler à son conjoint ?
Oui, bah déjà, enfin, j'ai pas spécialement eu besoin de lui en parler. Oui. Lui, de lui-même, il a ressenti que quelque chose n'allait pas du tout. Mm-hmm. Il voyait bien parce que je suis plutôt une maman poule qui entoure parfois trop ses enfants. Et il a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas dans ma façon de me comporter avec eux, tout ça. Et il a tout de suite réagi, tout de suite pris le relais. Oui. Je peux pas lui être plus que reconnaissante de ce qu'il a fait parce que il a compris que moi j'étais au bout du rouleau. Il s'est débrouillé pour pallier partout là où moi je n'y arrivais pas tant que je n'y arrivais pas, quoi. Oui. Tant que je n'arrivais pas à me remettre sur pied. Voilà.
Et dans ce cas-là, en fait, à ce moment-là, vous disiez quoi ? Vous vous disiez je suis fatigué, je suis au bout du rouleau, mais vous ne disiez pas que vous étiez dans un état d'épuisement, ce fameux épuisement maternel dont on parle aujourd'hui ?
Non. Ouais. Non, pas tout de suite. En fait, au début, je me suis rendu compte que j'étais fatiguée, épuisée. Que j'avais beau dormir, ça palliait pas la fatigue. Ouais. Donc après, je me suis...
Vous dormiez beaucoup ?
Beaucoup. J'ai toujours été une grosse dormeuse, alors ouais, je ne sais pas si on peut dire que je dormais beaucoup, mais non, peut-être pas plus, mais je me réveillais, j'étais quand même fatiguée. Ouais. Mais ce n'était pas de la fatigue physique, en fin de compte, c'était vraiment de la fatigue émotionnelle.
Ouais. Alors après, justement, allez-y, dites-moi, pardon.
Non, après, en fait, j'ai trouvé mes réponses... sur mon mal-être, en fait, j'ai fait des recherches sur Internet déjà pour voir si j'étais la seule. Mmh. Et j'ai trouvé des réponses au travers d'autres témoignages et surtout au travers de lectures, quoi. J'ai beaucoup lu de livres sur le sujet, d'articles et tout ça pour vraiment mettre des mots sur mes mots, en fait.
Est-ce que la culpabilité que ce type de situation peut dégager lorsque on est maman et qu'on sent qu'on ne peut pas aller au bout de quelque chose, de faire quelque chose pour son enfant, est-ce que cette culpabilité, elle est au cœur de cet épuisement?
Forcément, on se sent coupable quand, ouais. Quand votre enfant il tombe par terre, qu'il se fait mal et que vous vous dites que bon bah il est pas mort quoi. Ouais. Et forcément, ça fait mal à l'intérieur de pas réussir à se mettre à genoux, de le prendre dans ses bras et de le consoler. Ouais. C'est forcément, on se sent coupable. On se dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas une bonne mère. Mmh. Quand on n'arrive pas à faire un puzzle ou des choses comme ça, forcément qu'on est, on se sent coupable.
On manque de confiance, et de patience, pardon. Je voulais surtout parler de patience.
Les deux, allez-y, parce que c'est vraiment à un moment donné, on n'a plus confiance en soi, on n'a plus confiance dans son rôle de maman. On se dit, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas craquer, péter un plomb, est-ce que je vais pas claquer la porte de chez moi parce que j'en peux plus, parce que le bruit devient aussi insupportable. Il y a tout un ensemble de choses, quoi. Et puis, des jeunes enfants, on peut pas leur demander d'être silencieux toute la journée pendant 8 heures. heures, ou voilà.
Bien sûr. Vous échangez avec vos amis, d'autres mamans, sur cet épuisement, ou c'est difficile de l'aborder avec ses amis ?
Au début, j'ai échangé parce que je suis quelqu'un qui communique assez facilement. Sur ma vie de maman, je n'ai pas de tabou, j'en parle facilement parce que je trouve qu'il y en a bien assez comme ça, des tabous.
Ouais.
Et donc, au début, en fait, j'en ai parlé. Et après, très vite, j'ai arrêté d'en parler et j'ai mis de la distance avec nos relations amicales, le temps de me requinquer. Parce qu'en fait, les gens en face de moi ne comprenaient pas. Quand je leur disais que j'étais fatiguée, que j'étais épuisée, eux, ils pensaient qu'en confiant les enfants un week-end et que j'allais faire des grasses maths, ça allait mieux se passer. Alors que ça n'avait rien à voir et ils ne comprenaient vraiment pas mon état intérieur, en fin de compte.
Ce qui doit renforcer encore plus la culpabilité, c'est que le regard des autres, à ce moment-là, pèse énormément. D'autres mamans ne comprennent absolument pas. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Comment est-ce que vous allez ?
Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
Ouais. Vous avez vu, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous avez vu un thérapeute dans toute cette période-là, ou est-ce que finalement c'est vous, votre conjoint et quelques proches qui vous ont aidé à sortir de tout ça ?
Non, j'ai pas vu de thérapeute parce que j'ai pas eu de très bonnes expériences dans le passé avec des thérapeutes et je sais que pour une bonne thérapie, il faut trouver le bon. Et à ce moment-là, quand moi j'ai pris conscience de mon état, j'ai senti qu'il y avait urgence de me sortir de ça, qu'il y avait urgence de faire quelque chose et que j'avais pas le temps de prendre un rendez-vous, de voir si ça collait, puis de prendre un autre rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Il fallait que je le fasse et que je le fasse vite. Donc après, je l'ai fait à ma manière. C'est peut-être pas la bonne, mais moi, j'ai lu beaucoup de livres. Ça m'a permis d'expliquer aussi à mon conjoint ce qui se passait, qu'est-ce que je ressentais, de lui faire lire des passages, de lui faire comprendre que... Enfin, en l'occurrence, pour moi, je pense que ce qui pesait énormément sur mon dos aussi, c'est le rôle que la société nous colle sur le dos. Il faut être des bonnes femmes, des bonnes mères, des bonnes épouses, des bonnes maîtresses de maison, des bonnes travailleuses.
Ouais.
Voilà. Aujourd'hui, un jour, on a demandé l'égalité des sexes, on a eu le droit de travailler et le droit de voter, mais on n'a pas donné le droit aux hommes de faire la lessive. En gros, je dis ça en rigolant.
Et à mon avis, c'est parti pour un bout de temps encore, même si ça s'améliore un peu, mais c'est vrai. C'est vrai.
Moi, j'ai à la maison un homme qui fait la cuisine, qui fait la lessive et qui fait le ménage, donc je sais que j'ai de la chance. Mais à un moment donné, cette vision, elle n'est pas venue de mon conjoint, elle est venue de la société. Elle vient aussi des autres mamans qui sont... Enfin, il faut le dire, hein, entre nous, les mères, on est impitoyables. Hein. C'est atroce. Hein.
Alors, justement, à ce sujet, il n'y a qu'à regarder sur Facebook. Moi, il y a toujours un truc qui me saisit, c'est toutes ces mères, vous savez, qui se prennent en photo chaque jour avec leur bébé et on a fait ci, c'est ça. Et c'est vrai que c'est assez horripilant de voir ça parce qu'en fait, c'est toujours une volonté de se montrer comme mère parfaite. Vous étiez comment, vous, Ombline, justement ?
Oh, mais j'espère imparfaite. Hein, parce que ça...
Non, mais vous voyez ce truc qui peut renforcer la culpabilité, c'est voilà, des femmes, à partir du moment où elles accouchent, ça devient le centre, le bébé devient le centre de leur vie. Et Virginie, tout le monde vous a parfaitement entendu sur la pression que peut-être le regard des autres et justement ce jugement de la maman parfaite. Mille merci pour votre témoignage cet après-midi sur Europe 1. Dans quelques instants, nous allons accueillir Isabelle Roskam. Elle est docteure en psychologie et co-auteure du livre « Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir ».
Europe 1.
Submergé par une fatigue à la fois physique et psychique. Vous souffrez du burn-out maternel, vous nous racontez au 3921 et vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes jusqu'à 16h avec Olivier Delacroix pour parler du burn-out maternel. C'est Claudio Capéo tout de suite avec Ta main sur Europe 1. Ta main par Claudio Capéo. Des mères qui cherchent sans cesse de faire bien, de tout contrôler, de tout contrôler à tout niveau jusqu'à craquer et se laisser gagner par l'épuisement. On parle du burn-out maternel. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Isabelle Roskam, docteure en psychologie et co-auteure du livre « Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir » aux éditions Odile Jacob. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. À partir de quand avons-nous réussi à mettre un mot sur ce qu'est l'épuisement maternel ?
Alors en fait, l'épuisement maternel, on en trouve déjà des traces dès 1989 dans la littérature, chez par des Américains en fait qui se sont intéressés au phénomène et de façon très intéressante, c'était des hommes qui s'intéressaient au burn-out professionnel et qui se sont dit mais en fait ça peut se produire en fait dans le cercle privé et dans le cercle familial. Mais néanmoins à l'époque personne ne va beaucoup s'intéresser au sujet et il va falloir attendre les années 2010 pour que ça revienne sur le tapis. Et alors, c'est une équipe de Suédois qui s'intéresse un peu à la fatigue des parents dans le cadre d'enfants gravement malades qui ont subi des transplantations cardiaques, ce genre de choses. Ce qui laisse supposer qu'en fait, pour être épuisé, être en burn-out, il faut être dans une situation qui est particulièrement problématique. Or, ce que nous, on constatait, c'était que non, en fait, dans les familles dites ordinaires, où il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent, eh bien, les gens ont ces symptômes d'épuisement intense, et c'est ce qui nous a amené en fait à nous intéresser au sujet. Donc finalement, ça a pris de l'ampleur, mais je pense parce que c'était le bon moment et que ça correspond à la réalité des gens d'aujourd'hui.
Quelle est la différence entre l'épuisement maternel et ce qu'on appelle le baby blues?
Alors d'abord, le baby blues, c'est vraiment un état qui est d'abord lié à des modifications hormonales après la naissance, etc. Et puis c'est très contextualisé à l'après-naissance de l'enfant. On parle de baby blues quand ça arrive dans les premiers jours, premières semaines qui suivent la naissance de l'enfant. Tandis que le burn-out parental, bon d'abord c'est un syndrome, donc c'est un vrai état de souffrance qui va durer bien plus longtemps a priori que le baby blues et surtout qui peut survenir à n'importe quel moment de la vie d'un parent, quel que soit l'âge des enfants.
Oui, c'est ça. Un enfant, en fait, il peut avoir 6 ans et provoquer un épuisement maternel. Je dis maternel, mais ça concerne les hommes aussi. Hein,
concerne les hommes aussi.
Quels sont les premiers symptômes, justement, de ce burn-out parental?
Alors, le premier symptôme, souvent, dont les parents se rendent compte, c'est l'épuisement. Et je pense que le témoignage qu'on a eu de Virginie était intéressant à cet égard. C'est que ce qu'elle a ressenti d'abord, c'est une perte d'énergie. Elle parle de pilotage automatique, d'avoir une gestion automatique des tâches du quotidien. Et elle dit aussi un moment, qu'elle dit que ses copines lui disaient « mais confie-moi mes enfants, confie-moi tes enfants et tu pourras dormir ». Mais elle disait « c'était pas une question de dormir et c'est vrai, c'est un épuisement interne émotionnel qui ne se résout pas avec simplement une bonne nuit de sommeil qui est durable ». Et donc ça, c'est la première chose que les gens ressentent. Mais souvent, ça s'accompagne assez vite, en fait, d'une perte de plaisir avec les enfants. Donc Virginie, elle nous dit aussi, moi, j'arrivais plus à m'investir dans des échanges émotionnels, à partager des choses avec eux. Je me sentais très irritable.
Elle parle d'absence, de vide, quand elle doit s'impliquer.
Ouais. Exactement. Alors on appelle ça, nous, de la distanciation émotionnelle. C'est vraiment l'idée c'est un peu une forme de protection quand on n'a plus d'énergie. On s'occupe de ce qui est vraiment urgent, c'est-à-dire les tâches en pilotage automatique du quotidien, donner à manger, veiller à ce qu'ils dorment. Mais après, s'impliquer dans les échanges émotionnels, on n'a plus l'énergie en fait de le faire et parfois même plus l'envie et plus le plaisir. Et donc ça, c'est un autre signe. Et il y a autre chose dont elle a parlé aussi qui est important, c'est le sentiment de ne plus être une bonne mère, donc d'avoir...
culpabilité.
Et alors, ce qui était important aussi, c'est le phénomène de contraste. Donc les parents qui sont en burn-out, souvent, ils ne se reconnaissent plus. Et elle disait, en fait, je n'ai pas eu besoin d'expliquer à mon conjoint parce qu'il s'est rendu compte que je n'étais plus la même. Et donc ce phénomène de contraste est important. Bien sûr, un parent qui ne se serait jamais investi auprès de ses enfants, on ne parle pas de burn-out à ce moment-là.
Quelle est la première démarche conseillée dans... ces cas d'épuisement parentaux, quels conseils vous donnez à ces parents?
Alors, je pense que Virginie, c'était un bon exemple, parce qu'elle a dit en fait ce qui m'a fait du bien, mon sentiment d'urgence, c'était en fait d'arriver à mettre des mots sur mes mots. Ouais. Et je pense que certainement la première chose, c'est d'arriver à pouvoir nommer ce qui se passe, reconnaître en fait la souffrance et la provenance de la souffrance. Et une fois qu'on a mis des mots, alors il y a déjà un phénomène, je dirais, de déculpabilisation et de normalisation, parce qu'effectivement, on peut trouver de l'information en ligne. Elle a trouvé des bouquins et ça l'a aidé en fait à se dire, OK, je suis pas la seule à vivre ça, il y en a d'autres et ça fait pas de moi en fait un monstre, un mauvais parent. Et aussi, je peux très facilement me rendre compte qu'en fait, et elle l'a dit aussi, on s'en sort. C'est un état qui va être présent pendant quelques semaines, voire parfois quelques mois. Mais on peut faire des choses pour s'en sortir, aller mieux, retrouver le plaisir de la parentalité. Et donc, oui, mettre des mots, c'est super important. Et une fois qu'on l'a fait, alors on peut communiquer autour de ça. Alors, soit avec l'entourage, elle l'a fait avec son conjoint, avec des amis. On peut le faire en identifiant des sources d'informations, comme un livre, par exemple. Mais on peut le faire aussi avec un professionnel, le cas échéant, quoi.
D'accord. Isabelle Roskam, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et co-auteur du livre Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir. Vous restez en ligne avec nous dans quelques instants. Nous accueillerons Sandrine. Elle est la mère d'enfants hyperactifs et diagnostiqués à haut potentiel et fait actuellement un burn-out parental.
Et il y a Céline qui témoigne au 39-21. Elle a 33 ans. L'épuisement maternel m'est tombé dessus. Sans crier gare, en public, j'avais toujours le sourire et pourtant j'étais à bout de nerfs. Ma voisine m'entendait crier à longueur de journée. Je culpabilisais un petit peu plus chaque jour et mon mari assistait sans savoir quoi faire à mon naufrage. Parler a été ma bouée de sauvetage.
Europe 1.
On parle du burn-out maternel cet après-midi. 39-21. Pour vous exprimer sur l'antenne d'Europe 1, vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de l'épuisement maternel des mères au bout du rouleau. C'est votre histoire. Qu'avez-vous ressenti et comment surmonter cette crise? On continue de vous écouter. Voici Jérémy Frérot sur Europe 1 avec Tu donnes. C'est une chanson de son premier album Matrioshka. Jérémy Frérot sur Europe 1 avec Tu donnes. Elle souhaite tellement être des super mamans qu'elle se laisse submerger. Vous êtes mère, vous avez du mal à reconnaître que vos enfants vous épuisent. Nous parlons du burn-out maternel avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Sandrine. Bonjour Sandrine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 46 ans et j'habite.
D'accord, je vous entends pas très bien. Sandrine, si vous pouvez vous mettre dans un endroit où je suis sûr de bien vous entendre. En attendant, je vais résumer un petit peu votre situation. Vos enfants ont été diagnostiqués hyperactifs et à haut potentiel. Alors, hyperactifs, on sait à peu près ce que cela veut dire. Hein, les enfants qui sont assez mouvants, énergiques. Ouais. Mais des enfants à haut potentiel, en fait, ça se traduit comment?
Alors, vous m'entendez mieux là?
Oui, je vous entends parfaitement.
Un enfant à haut potentiel, alors il y a plusieurs caractéristiques, bien sûr, mais c'est vrai que ce sont des enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions.
Oui.
Donc, par émotion, on entend bien souvent colère, malheureusement, c'est pas la joie de vivre qui déborde dans ces cas-là.
Oui.
Et donc de la colère en permanence avec des frustrations qu'ils n'arrivent pas à gérer, des frustrations qui peuvent être aller se brosser les dents, enfin des tâches quotidiennes, se brosser les dents, faire ses devoirs, prendre sa douche.
Ce qui peut, d'accord, on peut comprendre pourquoi cela peut être épuisant au bout d'un moment. Quel âge ont-ils vos enfants?
7 et 14 ans.
7 et 14 ans. Vous avez
à l'époque, quand j'ai rencontré ce problème-là, ils avaient 7 et 14 ans.
D'accord. Justement, ce problème-là, vous l'avez rencontré il y a combien de temps maintenant?
Eh ben, ça fait 2 ans, 2 ans et demi.
D'accord. Vous avez ressenti rapidement que cela vous épuisait à cette époque-là?
En fait, ça faisait des jours, enfin même des mois que j'en parlais autour de moi, notamment à mon conjoint, et que j'essayais de l'expliquer à mes enfants.
Oui.
Mais visiblement, j'ai pas été assez claire. Et puis, c'est arrivé petit à petit, quoi. C'est une espèce de pression comme ça. On se sent un épuisement. J'avais une sensation d'étouffement, même carrément. J'étais vraiment en souffrance, en fait. Je ne supportais plus rien du tout, quoi.
Vous dites que au moment de la sortie de l'école, vous étiez prise carrément d'angoisse parce que vos enfants allaient rentrer à la maison.
J'appréhendais carrément le retour du collège et de la primaire parce que je ne savais pas ce qui allait me tomber dessus.
Ouais.
Bien souvent, c'était une sacrée tornade, mais j'avais vraiment peur de les retrouver, quoi. Donc c'est une sensation qui est super déplacée pour une maman aimante, normalement.
Ouais. Comment est-ce que vous qualifieriez votre quotidien à cette époque? Vous vous sentiez seule déjà à affronter cela?
Alors je me sentais seule. Alors je venais de changer de métier, j'étais devenue assistante maternelle, donc je travaillais à la maison.
Oui.
Donc je pense que ça n'a peut-être pas forcément aidé les enfants à comprendre que même en étant à la maison, en fait, on travaille.
Mm-hmm.
Donc et seule, seule, oui et non. Enfin, mon conjoint rentrait sur les coups de 20h le soir, donc seule en journée à la sortie de l'école, oui, pour affronter tout ça. Bien souvent le repas également, parce que le repas c'était comique aussi. Enfin, avec le recul, c'est comique. Sur le moment, ça a été beaucoup moins.
Ouais.
Et donc seule, je pouvais en parler, je pouvais échanger à ce sujet, mais je pense que tant qu'on n'est pas confronté à des enfants atypiques, les gens n'arrivent pas à comprendre. Je pense qu'on se rend pas compte de ce que ça peut être comme. C'est une énergie constante, en fait. Ça demande une énergie constante.
Et comme beaucoup d'autres femmes qui souffrent d'épuisement parental, vous avez beaucoup culpabilisé à l'époque. Hein. Vous disiez avoir ressenti ça.
Parce que forcément, qui dit maman dit bienveillance, patience, écoute, amour, enfin, tout le package. Donc, du coup, on ne se retrouve pas dans ce schéma-là. Et puis, on culpabilise. On se dit, mais je sais pas. Et puis, surtout de se dire, mais je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'aime pas suffisamment mon enfant. Il y a un truc qui colle pas chez moi. Il y a un truc qui ne va pas chez moi.
Mmh. Alors, un jour, vous avez craqué, sûrement au bout de cet épuisement qui vous paraissait insurmontable. Vous êtes parti. Alors, où est-ce que vous êtes allé et surtout, est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que c'est ce qui vous a sauvé finalement?
Alors, c'est exactement le terme. C'est ce qui m'a sauvé. C'était la goutte d'eau un matin, un samedi matin. Une colère, une énième colère, j'ai envie de dire. Et puis là, j'ai clairement pété un câble. Hein.
Ouais.
Et je leur ai dit, mais c'est bon, j'en ai marre, je m'en vais tout de suite. Je suis montée faire ma valise. Et puis, en faisant la valise, j'ai commencé à me dire, c'est n'importe quoi. Mon conjoint m'a soutenue en me disant, mais non, c'est très bien, vas-y, je gère. Et je suis partie. Donc, sans me dire au revoir, je suis partie. Je pouvais plus, j'étais vraiment au bout du bout.
Ouais.
Donc, je ne savais pas où j'allais, en fait, quand je suis partie. Mmh. Et puis, je me suis souvenue que mes parents étaient absents. Donc, je suis allée chez eux pendant... je suis restée 3-4 jours, en fait.
Ouais.
Et ça m'a sauvée, oui. Comme vous dites, ça m'a complètement sauvée.
Mais alors, vous êtes restée 3-4 jours et après, vous avez... Bon, alors, durant ces 3-4 jours, je suppose que ça a été très important pour vous de vous poser, de mettre des mots, prendre le temps de mettre des mots sur tout ce que vous viviez. Mais ensuite, ça vous a pris combien de temps pour rétablir la situation, puisque aujourd'hui, vous me dites que tout va bien?
J'ai posé des mots oui et non, parce que j'ai pris surtout du temps pour moi. J'ai tâché de ne pas réfléchir à tout ça. Alors forcément, je pense qu'inconsciemment, on met des choses quand même bout à bout. Mais l'idée, c'était vraiment de prendre du temps pour moi, la lecture, du sport, etc.
Ouais.
Et puis, je pense que je suis revenue avec un nouveau souffle, même si j'avais quand même, encore une fois, une appréhension d'y retourner. Hein, parce que je me suis dit, je me retourne dans l'arène.
Ouais.
C'est terrible, hein, les mots employés, mais c'était vraiment cette sensation-là.
Mm-hmm.
Et en fait, alors oui, on s'est mis autour d'une table pour discuter, mon conjoint, les enfants et moi. Mais je pense que surtout ce qui a fait que ça a changé finalement, c'est terrible de le dire, mais je pense que c'est moi, parce que mieux.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis revenue en me disant, c'est possible de faire un break et de pas être en apnée sans arrêt. J'ai vu que c'était possible de faire une pause. Et le fait de se dire, le fait d'avoir ça dans un coin de sa tête, eh ben ça soulage. Ça permet de relativiser beaucoup plus de choses et d'appréhender les choses avec plus de patience.
Et j'ai envie de vous dire que cela fait aussi écho à ce que nous disait Virginie tout à l'heure, qui nous disait, à un moment, j'ai commencé à lire des bouquins, à trouver des mots, à poser des mots sur ce que j'étais en train de vivre. Et peut-être que la solution, elle est aussi là. On le verra tout à l'heure avec Isabelle Roskam, qui est toujours en ligne avec nous. Mais en tout cas, ce break vous a au moins permis de poser des mots et surtout de sentir qu'il fallait, ce que j'entends moi, vous occuper un petit peu de vous, vous consacrer du temps un peu à vous, et c'est ce qui vous a remis sur pied aujourd'hui. En tout cas, mille merci pour votre témoignage cet après-midi sur Europe 1. Sandrine, dans quelques instants, nous accueillerons Hélène. Elle a aujourd'hui retrouvé la sérénité après un burn-out maternel, mais cela lui a pris vraiment beaucoup de temps.
Europe 1.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Sandrine. Venez aussi nous raconter votre histoire, on vous écoute au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Tristesse, fatigue, anxiété, irritabilité, nous parlons du burn-out maternel. À tout de suite avec Olivier Delacroix et on écoute Dermot Kennedy sur Europe 1. La révélation irlandaise Dermot Kennedy sur Europe 1 avec Power Over Me. Vous êtes mère, vous aimez vos enfants et pourtant, vous avez envie de partir. On parle avec vous du burn-out maternel. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Isabelle Roskam. Docteur, en fait, je voulais revenir sur le témoignage de Sandrine que l'on entendait précédemment et qui nous parlait de ces enfants hyperactifs, de ces enfants à haut potentiel. Est-ce que le risque est augmenté avec ces enfants de faire un épuisement parental? Parce que bon nombre de parents que je connais et qui ont des enfants qui souffrent de ce type de trouble vivent ce type de burn-out.
Alors en fait, ce qui est important de comprendre, et le premier témoignage l'avait bien démontré, c'est que le burn-out, il ne survient jamais à cause d'un seul facteur, d'une seule raison.
D'accord.
En fait, c'est toujours le résultat d'une accumulation de stress. Donc le burn-out, c'est une maladie du spectre du stress et qui survient quand il y a trop de stress pendant trop longtemps, qui se chronicise en fait.
D'accord.
Donc bien sûr que la présence... Donc on peut se représenter en fait la parentalité comme une balance, avec d'un côté... les stresseurs auxquels on fait face et de l'autre les ressources qu'on a pour faire face à ces stresseurs.
Mmh.
Et bien sûr que le fait d'avoir un enfant hyperactif ou HP, ça vient alourdir considérablement le stress que l'on peut avoir dans sa balance et on ne va pouvoir supporter ce stress que moyennant le fait qu'on va pouvoir mettre des ressources en contrepartie pour prendre... pour être capable en fait de gérer ce stress. Dans le témoignage de Sandrine, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les ressources en fait qu'elle a fini par mettre en place, c'est pas forcément des gens qui vont s'occuper de ses enfants à sa place ou qui vont faire de la thérapie avec eux. Hein. C'est parfois l'idée qu'on a juste... Bon, elle avait besoin, par exemple, de trouver des plages où elle s'autorisait à prendre du temps pour elle, à faire de la lecture, du sport, et donc des moments pour souffler, en fait, pour être pleinement disponible à ses enfants aux autres moments. Et donc, c'est très important de garder cette balance en équilibre. Mmh. Et donc, dans les deux témoignages, c'était assez évident, il faut bien retenir ça, que le burn-out, ça ne survient jamais en raison d'une seule chose, d'un seul événement ou d'un seul problème. C'est toujours l'accumulation de ces difficultés.
On va pouvoir parler d'une autre situation qui concerne Hélène, que nous accueillons maintenant au 3921. Bonjour Hélène.
Bonjour Olivier.
Alors Hélène, vous avez eu des jumeaux hein, et vous avez vécu ce burn-out maternel. Et j'en viens directement à cette image de mère parfaite que vous dénoncez. Qu'est-ce que vous entendez par là, ces mères parfaites qui provoquent donc une culpabilité à la limite du supportable ?
Oui, le problème c'est que malheureusement, on peut toutes être la mère parfaite de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on peut se cacher derrière une façade. Et je me suis rendu compte que c'était mon cas. Hein. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure au courant de l'émission. Mais finalement, je faisais très bonne figure en société. Et puis, au moment où j'arrivais dans ma voiture, la porte était fermée. C'est là que je m'autorisais à pleurer. Et il y a uniquement ma voisine qui, elle, m'entendait crier toute la journée. Puis mon mari, lui, qui ne... comprenait absolument rien à ce qui m'arrivait.
Ça a fragilisé votre couple, hein, d'ailleurs.
Oui, complètement. Moi, j'ai fait une thérapie personnelle pour me sortir de cet épuisement. Et on a fait une thérapie de couple aussi parce qu'on a évidemment été fragilisés. C'est sûr que avoir des jumeaux, des triplés au plus, doit être l'un de ces facteurs stressants dont parlait Isabelle.
D'accord. Et en fait, vous avez écrit une chanson dont on va écouter un petit extrait là maintenant, avec une chanteuse qui s'appelle Tiffany Wary, intitulée Fabuleuse. Et vous nous direz pourquoi vous avez écrit cette chanson.
Moi, je sais quoi, je sais quoi, je suis fabuleuse. Moi, je sais quoi, je sais quoi, je suis fabuleuse. Moi, je sais quoi, je sais quoi, je suis fabuleuse. F-A-B-U.
Alors, je suis quoi, je suis quoi, je suis fabuleuse. C'était une façon de se... Voilà, de se créer une nouvelle image, en tout cas d'y croire à cette image. Racontez-moi ça, pourquoi avoir écrit cette chanson.
Complètement. En fait, j'ai créé une communauté en ligne qui s'appelle les fabuleuses au foyer. Alors fabuleuses parce qu'on l'est, et bien souvent on est la première à penser qu'on ne l'est pas. On a beaucoup parlé de culpabilité dans votre émission, ouais. Et je crois que c'est vrai. Je pense que la culpabilité est une conséquence de l'épuisement, mais une cause aussi. C'est-à-dire on ne se croit jamais assez. On vit dans un monde, surtout en tant que femme, où on n'est jamais assez. On n'est jamais assez mince, jamais assez intelligente, jamais assez présente, jamais assez impliquée au boulot, jamais assez impliquée avec ses enfants non plus. Et donc, toute l'idée, c'est de, évidemment pas de dire qu'on est des fées du logis hein, ou des mères parfaites, mais de dire qu'on est juste assez fabuleuse. Donc, chez les fabuleuses, dans notre communauté en ligne, on insiste beaucoup sur reconstruire mon estime de moi-même.
Et pour toutes les mamans qui vous... Et pardonnez-moi, je suis obligé de... Parce que le temps passe, malheureusement, Hélène. Pour toutes les mamans qui sont dans cet état, en ce moment, d'épuisement, je conseille donc de vous chercher, de vous trouver. On vous trouve très facilement hein, sur les réseaux sociaux. C'est fabuleuse. Merci, Hélène, pour votre appel et votre témoignage cet après-midi. Et dans un instant, nous allons continuer d'échanger avec Isabelle Roskam, docteur en psychologie et co-auteur du livre « Burnout parental, l'éviter ». Et s'en sortir.
Et Tiffany nous écrit sur Facebook un extrait du message de Tiffany. Je suis maman de 3 jeunes enfants, ce sont des poids sauteurs en permanence, toujours à fleur de peau. J'ai le sentiment d'avancer sur une corde tendue, de maintenir tout ce petit monde à bout de bras.
Europe 1.
On parle avec vous au 39-21 du burn-out maternel et nous vous lisons aussi sur Twitter, hashtag Europe 1. Jusqu'à 16h, vous nous racontez votre histoire, vous êtes mère de famille, vous êtes épuisée, vous vous sentez coupable. Olivier Delacroix continue de parler avec vous du burn-out maternel. Et on écoute Calvin Harris et Ragan Bonneman avec Giant sur Europe 1. Le DJ écossais Calvin Harris qui s'offre les services du chanteur anglais Ragan Bonneman. C'était Giant, on parle de l'épuisement maternel sur Europe 1. Comment s'en sortir ? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Isabelle Roskam, qui est docteur en psychologie et co-auteur du livre « Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir ». Alors, Madame Roskam, on a entendu beaucoup de femmes parler dans cette émission, peu d'hommes hein, témoignent. Est-ce que ces pères, vous y avez affaire de temps en temps et est-ce qu'il y a une différence entre la manière de vivre cet épuisement entre les femmes et les hommes ?
Alors oui, alors d'abord la prévalence n'est pas tout à fait la même, on a 2 femmes pour un homme, oui. Donc c'est quand même davantage présent chez les femmes, mais par contre, tout à l'heure j'évoquais ce système de balance, et eh bien on va voir que les femmes, elles vont tomber en burn-out quand la balance est réellement en déséquilibre, c'est-à-dire qu'ils manquent de ressources pour faire face aux stresseurs qui sont présents dans leur vie de mère, alors que chez les pères, ben on va voir que, en fait, même quand l'équilibre n'est pas encore tout à fait rompu, ces pères présentent déjà des symptômes de burn-out. Et en réalité, Je pense que c'était Sandrine qui y a fait référence tout à l'heure. Les mères sont mieux préparées à faire face au stress de la parentalité, au stress généré par les enfants, leurs cris, l'éducation, etc. Mm-hmm. De par ce qu'on appelle l'éducation des rôles de genre, en fait.
Oui.
Et les pères sont un peu moins bien préparés et du coup, ils craquent plus vite.
Allez-y, continuez.
Donc en somme, il y a moins de pères parce qu'en gros... Encore aujourd'hui, malgré une évolution vers l'égalité, ils prennent moins en charge l'éducation et les soins des enfants.
Oui.
Mais par contre, ils sont plus fragiles en fait, vis-à-vis des stresseurs liés aux enfants.
Mmh. Et est-ce que ces pères, finalement, on écoutait Sandrine et la culpabilité dégagée par le regard de ces mères parfaites qui, quand vous leur en parlez, finalement, vous sentez jugées d'un seul coup. Est-ce que les pères vivent moins ce type de pression que les femmes?
Alors je dirais non, parce qu'en fait les pères qui tombent en burn-out, c'est des pères qui ont très envie de bien faire, qui sont très investis. Et donc eux aussi en fait, la culpabilité elle est générée par le fait de se mettre des standards élevés, c'est-à-dire d'avoir une image d'une parentalité idéale, qu'on soit père ou mère d'ailleurs, de ce que c'est qu'être un chouette papa, une chouette maman, et on se met des standards assez élevés, et comme on n'arrive pas ou on n'arrive plus en fait à se conformer à ces standards, eh bien on se sent coupable de la distance qu'il y a entre le soi existant et le soi idéal. Et donc les pères qui tombent en burn-out, c'est des pères en fait très investis qui ont aussi cet idéal de la parentalité ou de la paternité. Et donc, on a le même phénomène de honte et de culpabilité de ne pas y arriver, en fait.
Mmh. Isabelle Roskam, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et co-auteur du livre « Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir ». Je vous remercie de vos éclairages pour cette émission cet après-midi qui était donc consacré au burn-out maternel, paternel, à cet épuisement parental. Merci aussi à Sandrine, à Hélène de nous avoir appelés. Merci à Virginie. C'est la fin de cette émission. Il est important de se déculpabiliser, hein, on l'a vu, car c'est aussi ça qui épuise, le fait de se dire en permanence qu'on est un mauvais parent dans le burn-out maternel comme paternel. On le sait, avoir des enfants, ça n'est pas toujours qu'un long fleuve tranquille. Et ce n'est pas parce qu'on arrive à ne plus faire face à tout ce que ces bambins nous demandent de faire qu'ils font tomber dans l'épuisement total. Il faut essayer de prendre du temps pour soi, ne pas hésiter à demander de l'aide à son entourage et consulter si nécessaire. De nombreux ouvrages existent sur le burn-out parental comme celui de Madame Roskam que nous venons d'avoir dans cette émission. Et puis on peut bien évidemment se documenter sur ce sujet en échangeant avec les autres.
Oui, bien sûr, sur les réseaux sociaux et sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 d'abord et puis bien sûr Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
900 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. Parmi elles, 30 000 ont moins de 60 ans. C'est ce que l'on appelle l'Alzheimer précoce. Alors que faire? Comment accompagner celui qui en souffre? Ce sera notre thème de demain. Alors si l'un de vos proches est atteint d'un Alzheimer précoce, si vous avez appris que vous étiez atteint d'un Alzheimer précoce, appelez-nous au 3921 pour nous partager votre quotidien, votre histoire. Nous serons là pour vous écouter. Ma chère Ambline, j'ai été comme d'habitude ravi de passer cette heure avec vous.
Moi aussi, à demain.
Et puis on se retrouve demain, bien avec évidemment. Plaisir. Et puis dans quelques instants, il sera temps, à partir de 16h, de retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Deux tontons flingueurs extraordinaires aujourd'hui, mon cher Carl.
Figure-toi, Olivier, c'est assez curieux que parmi mes tontons flingueurs du jour, il y a un journaliste et une gilet jaune. Et pourtant, je sens qu'ils vont s'entendre, Harry Roselmack et Jacqueline Moreau.
Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, bien évidemment, on se retrouve demain à partir de 15h. Au revoir.